Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux. Aucune trêve n'a été conclue entre Israël et le Hamas alors que le Ramadan vient de débuter le week-end dernier. Face à la crise humanitaire qui fait rage à Gaza, Joe Biden a haussé le ton, disant que Benjamin Netanyahou faisait plus de mal que de bien à Israël. On aurait pu imaginer que les États-Unis fassent pression pour simplifier un acheminement humanitaire par voie terrestre et le point de frontière de Rafah. Pourtant, ils ont préféré la construction d'un port temporaire pour transmettre leur aide. Aurait-on surestimé l'influence américaine en Israël ? Bonjour Amélie Ferret.
Bonjour.
Vous êtes politiste et responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Alors, tout d'abord, il faut nous expliquer comment les États-Unis ont un rôle prépondérant à la fois donc en Israël et en Égypte, puisque je rappelle que la bande de Gaza a deux frontières, alors même que le président américain semble quelque peu démuni en matière donc de moyens de pression vis-à-vis de ces deux pays.
Oui, tout à fait. En fait, c'est même plus large. Il faut voir que les États-Unis subventionnent la région. Israël, effectivement, bénéficie d'une aide de 3,8 milliards par an. Mais derrière, on a juste après l'Égypte avec 1,3 milliard et la Jordanie qui bénéficie également d'une aide américaine. Les États-Unis ont des moyens de pression, effectivement. Mais il faut voir l'architecture globale et leur capacité à utiliser ces moyens de pression pour contraindre les acteurs.
Et alors, justement, ces moyens de pression, parce qu'il faut les détailler, donc les États-Unis, par rapport à Israël, sont l'un des premiers fournisseurs d'armes. Israël ne tiendrait pas sans l'aide militaire des États-Unis.
Alors c'est un peu plus complexe que cela parce que Israël est un État doté de l'arme nucléaire, donc il pourrait éventuellement survivre sans l'aide militaire américaine.
Prenez
ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui la campagne militaire qui a été menée par Israël, elle est très coûteuse en munitions, notamment pour intercepter les roquettes, puisque le coût d'une roquette, c'est à peu près 50 000 $. Et là, on a vu que non seulement le Hamas avait toujours la capacité de lancer des roquettes, mais aussi le Hezbollah. Et donc, Israël a besoin de compléter et de recompléter leur stock de munitions en vue de sécuriser la bande de Gaza, mais aussi en vue d'une possible offensive sur le sud Liban. Et donc, l'aide militaire américaine dans ce contexte-là, même si elle n'est pas décisive pour Israël en termes de survie, elle est capitale pour que Israël puisse
continuer à mener son offensive sur Gaza et se protéger donc des missiles envoyés par le Hamas. Mais Amélie Ferret, question candide, pourquoi Joe Biden ne dit-il pas tout simplement que si, par exemple, l'aide humanitaire n'est pas acheminée à Gaza, eh bien, les États-Unis stopperont l'envoi d'armes?
Alors, pour les Israéliens, bon, c'est évidemment un chiffre qui est impossible à vérifier, mais pour les Israéliens, il y a à peu près 40% de l'aide humanitaire qui va au Hamas. Et donc, du côté américain, Biden a toujours été très clair sur le droit d'Israël à se défendre et sur le fait qu'il soutenait l'offensive militaire d'Israël pour contrer le Hamas. Donc, en fait, le rôle des États-Unis, il est un petit peu plus complexe que ça, parce que ils soutiennent donc l'idée d'une région sans Hamas et éventuellement sans Hezbollah, et donc ils vont pas contrer Israël pour ce faire, mais de l'autre côté ils veulent quand même sauvegarder les civils et aussi le droit international, et donc ils en sont réduits à essayer de limiter les dégâts, je dirais, en faisant de l'aérolargage. Et donc ils ne veulent pas non plus contraindre Israël sur les camions, puisque chaque camion qui entre de la bande de Gaza a été scanné à la fois par les Égyptiens et par les Israéliens pour s'assurer que le matériel humanitaire ne puisse pas être détourné par le Hamas. Et le problème, c'est que ça, c'est très chronophage et que les États-Unis, eux, veulent agir de manière à secourir aujourd'hui la population gazaoui. Donc, ils sont pris en étau, en fait, entre à la fois l'idée de préserver les intérêts militaires d'Israël et en même temps limiter les pertes civiles.
Oui, parce que je rappelle qu'il y a donc deux checkpoints, un checkpoint israélien, un checkpoint égyptien. Et donc, est-ce que les camions qui entrent ou qui pourraient entrer par le terminal de Rafah, autrement dit donc du côté égyptien, est-ce qu'ils sont malgré tout aussi scannés par les Israéliens.
Ah oui, il y a deux scans. Il y a d'abord le scan égyptien, comme je disais, et ensuite un scan israélien. Et il y a beaucoup de matériel qui est aussi retiré du fait des possibles usages d'eau. Par exemple, le chlore pour faire en sorte que l'eau soit potable, mais aussi des coffrets qui contiennent de l'aide humanitaire.
Mais alors, là aussi, pourquoi l'Égypte, qui est un État souverain, laisse faire Israël, puisque, après tout, c'est une frontière de plein droit, la frontière de Rafah, et normalement, un pays n'a pas un droit de regard sur la frontière d'un autre pays ?
Oui, alors ça dépend des frontières, mais ce que je dirais, c'est que en fait les Égyptiens, ce qui les angoisse, c'est la possibilité qu'il y ait 2 millions de Gazaouis dans le Sinaï, puisque donc eux, ils ont très peur d'un transfert de la population, avec donc pour eux la responsabilité de faire en sorte que cette population Gazaoui soit accueillie dans des conditions nécessaires. Alors on a vu des vidéos qui circulaient qui montraient qu'il y avait quand même des préparatifs qui a été fait à cette fin, mais ils essayent vraiment de faire en sorte que ça ne se passe pas, et donc c'est pour ça que eux ils sont plutôt sur une ligne où l'aide humanitaire elle a plutôt intérêt à aller à Gaza, puisque justement ça permet de rendre Gaza plus vivable et donc de réduire la pression sur les Égyptiens pour ouvrir la frontière. Après les Égyptiens eux aussi ils ont un intérêt à avoir un Hamas qui est démantelé, et donc c'est pour ça qu'il y a une coopération avec Israël sur ce point.
Et alors, du côté américain, donc, il va y avoir la construction de ce port, il a déjà débuté, de ce port pour acheminer donc de l'aide humanitaire à Gaza. Mais alors, là aussi, s'il y a de l'aide humanitaire, elle va forcément aussi aller au Hamas. Donc, l'argument qui prévalait sur terre, il vaudra aussi sur mer.
Oui, mais en fait, les Américains n'ont pas exactement la même interprétation que les Israéliens. C'est-à-dire que les Américains, en fait, n'arrivent pas à faire pression, effectivement, sur les Israéliens pour qu'ils laissent entrer davantage d'aide, puisque les Israéliens leur rétorquent « Oui, mais c'est la moitié quasiment de cette aide, elle va au Hamas. » Mais eux, ils peuvent se dire « En fait, nous, on peut prendre le risque qu'une partie aille au Hamas ou qu'une partie soit détournée, parce que pour nous, le risque qu'il y ait encore plus de morts civiles, il est plus important. Et il est plus important d'un point de vue humanitaire, mais aussi d'un point de vue de l'image, puisqu'il faut quand même resituer toute cette discussion avec l'élection américaine et qui aura lieu donc à l'automne prochain. Et en fait, Biden, lui, il a une problématique intérieure qui est que l'aile gauche de son parti est très pro-palestinien, très remontée contre Israël. Et cette aile gauche, elle risque de s'abstenir ils estiment que Biden n'a pas assez fait pour les civils palestiniens. Et une abstention de cette aile gauche, ça pourrait lui coûter l'élection. C'est pour ça qu'il essaye donc de ménager la chèvre et le chou, si vous me passez l'expression, pour justement montrer qu'il est actif et qu'il défend les civils palestiniens, mais en même temps laisser à Israël une marge de manœuvre et la possibilité de mener à bien son objectif militaire pour l'opération Glaive de Fer, c'est-à-dire la destruction du Hamas.
Et alors, du côté égyptien, parce qu'il se trouve que les États-Unis sont les principaux bailleurs de fonds de l'Égypte, qui est dans une situation financière précaire. Là aussi, pourquoi les États-Unis ne font-ils pas pression sur l'Égypte, par exemple, pour créer des hôpitaux de campagne ou des organisations, enfin, des installations humanitaires du côté du Sinaï ?
Mais parce que, comme je disais, pour les Égyptiens, c'est vraiment une ligne rouge d'accueillir les Palestiniens dans le Sinaï. Parce qu'en fait, eux, ils ont peur. Il faut voir qu'ils sont dans le logiciel de la Nakba, donc la catastrophe, c'est-à-dire le départ des Palestiniens lors de la création d'Israël. Et du coup, ils ont peur que ce transfert de population, s'ils accueillaient des Palestiniens, ne soit pas temporaire, mais soit permanent, à l'image de ce qui s'est passé en Jordanie et au Liban.
Donc c'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie. Un mot de conclusion, Amélie Ferret, est-ce que réellement le pessimisme qui peut se dégager de ce conflit est de mise ? Est-ce que vous voyez malgré tout une lueur d'espoir possible, ou est-ce qu'on est face à un jeu bloqué pour les raisons que vous avez expliquées ?
Non, je pense que l'espoir, il est toujours permis. Et je pense qu'en fait, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'agitation diplomatique. Les Israéliens changent aussi de position. Ils sont dans une justification beaucoup plus importante. Ils ont par exemple choisi d'aller plaider leur cause à la Cour internationale de justice, qui n'était pas le cas avant. Et on pourrait aussi voir une solution diplomatique qui arriverait par les BRICS, qui montent en puissance et qui pourrait permettre en fait de changer le jeu et de débloquer cette situation.
Donc on a effectivement une possibilité peut-être d'entrevoir un espoir. Merci beaucoup Amélie Ferret. Je rappelle que vous êtes politiste et responsable du laboratoire de recherche de défense de l'IFRI. Dans quelques secondes, eh bien, nous serons avec Alexandra Delbault avec Science. Et ce matin, on va groover, puisqu'une étude décrit où prend place l'envie de danser dans le cerveau, si vous avez bien entendu envie de danser.